Bon, ben Yannick, je te laisse la parole. Peut-être donc on peut te prendre un temps assez long pour te présenter, peut-être aussi ton histoire avec les sciences humaines, et puis l'histoire de ce livre, de ta thèse. Et puis voilà, la parole est à toi.
Merci Jean. Bah, merci pour ton invitation et puis merci d'être venue aussi nombreuses. Moi j'ai un peu pensé parler de mon livre, mais plutôt parler un peu autour du livre, plutôt que le contenu du livre lui-même. J'espère que ça vous donne envie de le lire, mais je vous incite pas trop non plus à le lire, parce que c'est vrai que c'est un livre de sciences sociales qui est une monographie en fait. Donc c'est vraiment une étude de cas sur le cas des adolescents difficiles. En se présentant, là, tout le monde a fait une petite référence au terme adolescent difficile. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça veut tout dire et rien dire, adolescent difficile, et c'est aussi un peu ce que j'ai essayé d'explorer dans mon livre, c'est-à-dire que c'est un terme qui a plein d'ambiguïté, et qui, de ce point de vue-là, à la fois est intéressant, et à la fois le premier mouvement qu'on a, c'est d'avoir envie de le clarifier, se dire, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe vraiment? Pourquoi on dit des adolescents difficiles? Les gens qui parlent d'adolescents difficiles, du reste, qui écrivent sur les adolescents difficiles, souvent ils mettent des guillemets pour montrer eux-mêmes que c'est un terme qui pose problème, qu'il faut utiliser avec précaution. Et en même temps, c'est aussi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est une entité un peu floue qui permet aussi de comprendre tout un tas de choses. Donc peut-être ce que je vous propose, c'est, dans un premier temps, je vais vous dire un peu comment j'en suis arrivé à faire cette recherche. Donc ça me permettra aussi de resituer un petit peu mon parcours, de me positionner. Et puis dans un deuxième temps, je pense que plutôt que de... Donc c'est un peu l'avant du livre, et puis maintenant, dans un deuxième temps, je pense que je vous parlerai plutôt de l'après du livre. C'est-à-dire de comment ces derniers temps, j'ai... Bon, c'est un livre que j'ai écrit il y a déjà 2 ans, j'ai soutenu ma thèse il y a presque 4 ans, c'est la reprise de ma thèse. Et comment ces 6 derniers mois, j'ai réfléchi sur le livre à partir plutôt de choses plus actuelles et de comment... Il pouvait m'aider à voir aussi cette recherche, pouvait me permettre de comprendre certaines choses de l'actualité, notamment de la question de la violence institutionnelle. Voilà, moi je suis, comment dire, je travaille comme psychiatre et anthropologue. C'est mes 2 activités. Donc comme psychiatre, c'est ma principale activité, c'est comme ça que je gagne ma vie. C'est vrai que c'est pas très facile de gagner sa vie comme anthropologue. Donc, j'ai même pas envisagé d'essayer de le faire. Je suis psychiatre, j'ai longtemps travaillé en institution, enfin en milieu hospitalier. Pendant 10 ans, j'étais responsable d'unité d'hospitalisation à l'hôpital pédiatrique qui recevait des adolescents. Et c'est comme ça que j'étais un peu en contact avec cette question, donc je vous en parlerai, en tant que psychiatre, à travers le travail de psychiatre. Et puis, je suis anthropologue, j'ai fait une formation à la recherche et un parcours doctoral à l'EHESS, à Paris. Et puis j'ai soutenu ma thèse donc en avril 2016 sous la direction de Richard Rechtmann. J'ai maintenant un rattachement académique à l'ENS de Lyon, et notamment dans une grosse unité mixte de recherche qui s'appelle l'IRIM, l'Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités, qui est une grosse structure de recherche en humanité, on va dire, philosophie, lettres, et un petit peu histoire et un petit peu sciences sociales, mais dans lequel on a constitué aussi, autour de Samuel Lézé, donc un anthropologue de la santé mentale, on a constitué une équipe de recherche qui s'appelle DSM, pour dire la santé mentale. Les spécialistes de la santé mentale apprécieront le clin d'œil. Et donc une équipe de recherche sur laquelle on travaille spécifiquement sur les questions de santé mentale. Donc c'est aussi un peu mon rattachement. Voilà. Je garde aussi un temps où ma recherche actuelle porte sur les urgences et le recours aux urgences pour les troubles du comportement chez les enfants et les adolescents. Donc je suis rattaché aussi à un service de recherche hospitalier pour ce travail de recherche. Donc les adolescents difficiles, c'est une question en fait qui m'est arrivée, enfin entre guillemets, qui m'est venue dessus. Je suis pas allé la chercher, elle m'est tombée dessus, entre guillemets. Alors je pourrais dire assez précisément quand est-ce que c'était. Souvent quand je parle de cette recherche, il y a quand même des moments un peu clés dans un parcours intellectuel, dans des moments où on se pose des questions, enfin dans une démarche de se poser des questions. Pour moi, c'était le printemps 2002. Et je dis la date parce que bon, pour moi, c'était le début de mon internat en psychiatrie, mais c'était aussi un moment où, si vous lisez le livre, vous verrez que c'était un moment où il y avait un certain nombre de choses qui se passaient dans le paysage institutionnel français. Les années 2000, enfin de 2002, 2005, il y a eu beaucoup de 2005, 2007, on pourrait dire, il y a eu 4-5 ans comme ça où il y a eu beaucoup de changements dans les institutions qui s'occupent de la jeunesse en France. Et donc j'étais interne, je faisais mes premières gardes à l'époque sur l'hôpital du Vinatier. Et j'avais vu pendant ces premières gardes une petite scène qui se répétait de manière assez immuable, répétitive. Enfin, vraiment, voilà, j'avais été marqué par la constance de cette scène. Une petite scène dans laquelle il y avait en gros trois protagonistes. Au milieu, il y avait un adolescent qui ne disait pas grand-chose. Un adolescent ou une adolescente, mais peut-être un peu plus souvent un adolescent qu'une adolescente. D'un côté, il y avait des accompagnants, on va dire, mais essentiellement des éducateurs, travaillant en institution, dans une institution qui a une fonction pour d'hébergement pour ce jeune ou cette jeune. Donc ces éducateurs, en fait, amenaient l'adolescent à l'hôpital en sollicitant une hospitalisation, en disant qu'ils étaient au bout du bout, qu'ils avaient touché les limites de leur intervention, que c'était un jeune en grande souffrance et qu'il avait besoin de soins. Et puis il faut dire ici une petite explication de texte, quoi, c'est-à-dire un jeune en grande souffrance, généralement c'est un jeune qui venait d'agresser violemment un éducateur ou une éducatrice, parfois une jeune fille qui s'était enfuie pendant plusieurs jours. Et puis face à ces éducateurs, des professionnels de l'hôpital, médecins et infirmiers qui expliquaient que certes ce jeune était souffrant mais qu'il n'était pas particulièrement malade, que ça pourrait être... il y avait un risque à le psychiatriser et que ça relevait plutôt de l'éducatif que du soin. Pour dire, je ne fais pas le geste de guillemets parce que c'est un type d'anthropologue, mais voilà, c'est comme ça que les choses étaient dites. Et c'est vrai que cette scène, alors... comment dire? C'était une scène assez troublée parce que les gens entre eux étaient très tendus et qui mobilisait un espèce de sentiment de violence, hein, plutôt on va dire du côté de la violence institutionnelle. Et je vais expliciter un peu pourquoi. Et puis concrètement, c'était aussi des jeunes qui arrivaient à l'hôpital après avoir fait des choses souvent très violentes. Donc la question de la violence était un peu en filigrane dans cette scène, même si vous avez peut-être fait attention dans la façon dont j'en parle, c'est pas vraiment dit en fait. On parle de souffrance, on parle de soins, on parle d'éducatif, mais c'est pas tellement une catégorie qui était mobilisée. Et donc face à cette scène, bon, les acteurs eux-mêmes, on va dire, de cette scène étaient troublés. On sentait des tensions, de l'animosité, et puis moi-même j'étais un peu mal à l'aise en fait. J'étais mal à l'aise parce que je trouvais qu'il y avait un espèce de truc qui ne m'allait pas dans les deux sens. Donc j'étais jeune clinicien, je rentrais dans le métier de psychiatre. En laissant repartir le jeune de l'hôpital, enfin plutôt en décidant de garder le jeune à l'hôpital, je trouvais effectivement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je me disais, on risque de redoubler une violence qu'il a déjà faite par de la violence, notamment la question de la contrainte. C'est-à-dire que là aussi, en arrière-plan, je savais que si on gardait ce jeune à l'hôpital, il allait probablement être moins calme, pas accepter de rester, peut-être qu'on allait sauter dessus, peut-être qu'il y avait une pièce à côté où on pouvait attacher les malades, et peut-être qu'on allait l'attacher. Et tout ça, pourquoi? Enfin, avec quelle légitimité? Pour quelle raison? Quel motif? Et puis, d'un autre côté, si on laissait partir le jeune, repartir le jeune avec ses éducateurs, je sentais aussi que... Enfin, je partageais un peu le mal-être de ces professionnels, je me disais que je comprenais... qui puisse être en difficulté avec un jeune aussi violent, et puis il y a quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à me dire sur le coup, mais je m'en suis rendu compte relativement plus tard en réalité, c'est que j'avais aussi l'impression que le job n'était pas fait dans la mesure où, comment dire, en tant que jeune psychiatre, j'avais l'impression que même si on n'hospitalisait pas ce jeune, je pouvais quand même dire quelque chose de sa conduite et de sa violence. Et pour être précis, c'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais commencé mon internat en psychiatrie, avec une assez forte coloration criminologique, au sens de la criminologie lyonnaise. Donc en fait, à Lyon, il y a eu, jusqu'au début des années 2000, une très forte école de criminologie lyonnaise, autour notamment d'une figure qui s'appelait Marcel Collin, et qui avait œuvré à constituer vraiment, à faire école, quoi, à constituer un groupe de cliniciens, psychologues et psychiatres, qui avaient une expertise, et notamment une expertise judiciaire, sur la violence, les comportements déviants, la délinquance, etc., et en particulier pour les enfants et les adolescents. Donc dans le livre, j'explique un petit peu finalement la généalogie de ces savoirs et de ces pratiques, mais sans m'en rendre compte, finalement, dans la façon dont je constitue mon identité professionnelle, le fait que la violence des adolescents tombe dans la juridiction des psychiatres, c'est-à-dire que les psychiatres étaient capables d'en dire quelque chose, c'était un élément assez fort, d'où aussi, je dirais, mon trouble dans le fait de laisser repartir ce jeune. Il s'agissait pas forcément de le psychiatriser du point de vue de l'hôpital, mais il s'agissait quand même d'appliquer les savoirs cliniques à sa conduite. Et donc là, il y avait une espèce de tension que je percevais sans arriver vraiment à la dire. Et puis, il y a peut-être un dernier point aussi qui est assez important, parce que pour comprendre tous ces adolescents difficiles, au cours d'une de ces premières gardes que j'avais faites aux urgences, et où j'avais vu cette scène, entre guillemets, de la patate chaude qui se rejouait, un des psychiatres qui m'encadrait m'avait dit cette phrase, il m'avait dit « Ces adolescents, ils sont forts pour monter les adultes les uns contre les autres. » Et c'était une phrase, en fait, avec laquelle j'étais tout à fait d'accord, et qui tombait sous ce qui, pour moi, allait de soi, et que j'ai beaucoup entendu, en fait, c'était vraiment partagé par... Tout le monde était assez d'accord pour dire que, dans ces désaccords qu'il y avait entre professionnels, et ben, il y avait quelque chose qui était lié aux caractéristiques du jeune, et en particulier à ce qu'il avait vécu en tant qu'enfant dans sa famille. Enfin, en tant qu'enfant, précocement. Donc, à l'histoire infantile, influer sur la façon dont les professionnels réagissaient autour de ce jeune. Un petit peu de temps a passé, peut-être il faut dire aussi, parce que c'est un peu dans l'arrière-plan, et je pense que j'en parle un tout petit peu dans le livre, mais moi j'avais été aussi assez, en arrivant en psychiatrie, assez agité par le débat qui a encore une certaine actualité, même si les choses se sont un peu reconfigurées depuis, mais par le débat en gros entre approche biomédicale de la psychiatrie et puis psychanalyse, quoi, les deux grands courants qui ont beaucoup dominé la psychiatrie au cours des, on va dire, 50 dernières années. Avec une espèce de position comme ça, quand on arrive comme jeune médecin pour se former, où il faut prendre parti, quoi. Il faut être d'un côté ou de l'autre. Donc ça m'avait aussi pas mal posé question. Donc je m'étais engagé d'abord dans une formation de master en histoire des idées. C'était juste après le stage que j'ai fait chez toi, Isabelle. Je me souviens que c'était l'été où je venais d'apprendre que j'avais une bourse pour faire un master, donc du coup je me souviens que le début de mon stage j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais faire. Ouais, ça c'était 2004-2005 si mes souvenirs sont bons. Et puis je dirais à l'issue de ce master, il y a eu des rencontres avec les sciences sociales qui ont été des rencontres d'auteurs, notamment l'école de sociologie de Chicago, mais qui ont aussi été des rencontres de personnes, notamment Evelyne Lasserre, qui est une anthropologue de mon dos que tu dois connaître, Jean, qui travaille encore, mais qui a pas mal travaillé sur la psychiatrie, mais dans le sens vraiment asile, quoi. L'hôpital psychiatrique, dans son quotidien. Et voilà. Donc, du temps a un peu coulé, et puis, début 2009, je me suis mis à la recherche de continuer cette démarche par un travail de thèse. Je suis allé rencontrer plusieurs personnes, et notamment j'ai rencontré Richard Reichmann. Donc Richard Reichmann, il est directeur de recherche chez le HESS, il est psychiatre et anthropologue, et puis il travaillait à l'époque dans un labo qui était assez orienté sur les politiques de santé et les populations. Et donc il y avait un certain intérêt à travailler sur les politiques de santé pour des populations spécifiques. Donc notamment, il m'avait mis un peu sur la piste comme ça, dans une discussion un peu à bâton rompu, en disant, mais là on était donc fin 2008, je pense, début 2009, il m'avait dit, mais ça serait intéressant peut-être de regarder la question de la dangerosité et comment les psychiatres se saisissent de cette question. Donc à ce moment-là, pour ceux qui s'en souviennent, c'était une période en France où il y avait un mouvement, je ne sais pas comment on pourrait dire, populiste, ou en tout cas politique, assez fort de préoccupation pour la délinquance des mineurs. Ouais. Et il y avait toute une série de réformes de la justice des mineurs, bon, qui s'est jamais vraiment... C'est un truc assez continu en réalité, la réforme de la justice des mineurs, mais où la question de la dangerosité, de la psychiatrie, de l'évaluation, des lieux d'enfermement, etc., était assez... de la prédiction, voilà, de la prévention de la récidive, étaient des questions très récurrentes. Et en fait, à ce moment-là, l'image de ces disputes aux urgences m'est revenue, et en commençant à faire un peu des recherches documentaires, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un problème public, en fait. C'est-à-dire que cette scène des urgences, en particulier, on trouvait des gens qui écrivaient dessus dans les quatre coins de la France. Il y avait des professionnels qui s'étaient mobilisés pour faire connaître ce problème de jeunes qui sont ni psy, ni éducatifs, et dont on ne sait pas où mettre, et qui se font rejeter de partout, même si je mets des guillemets, parce que je renvoie à l'idée que c'est ce qui se passe dans les institutions sont des propriétés des jeunes, hein, enfin sont liées quelque part à leur histoire. Et je me suis rendu compte que c'était un problème, donc c'était loin d'être un problème personnel, le trouble que je ressentais, mais c'était un problème collectif, que c'est un problème collectif qui avait des acteurs, des gens qui le repéraient, cherchaient à le faire connaître, à l'identifier, cherchaient des solutions pour le résoudre. Ces acteurs, c'était des cliniciens, des psychiatres et des psychologues, souvent qui s'associaient à des travailleurs sociaux, des éducateurs, des pédagogues, qu'il y avait toute une activité de voilà, faire connaître ce problème, notamment par des congrès professionnels, des revues, par des, je dirais une certaine audience auprès des pouvoirs publics, notamment dans les projets de loi en question, sur la réforme de justice des mineurs, la réforme des institutions de protection de l'enfance, etc. Et que donc là, il y avait un objet pour les sciences sociales. Hein, donc un objet qui est plus un objet personnel, individuel, psychologique, mais qui est un objet collectif. Donc c'est un peu comme ça que je me suis mis à la recherche d'adolescents difficiles, de cette... Qu'est-ce que c'est que ce problème des adolescents difficiles? Donc peut-être pour en dire un petit mot, et puis après je passerai peut-être à la deuxième partie de ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est-à-dire l'actualité de cette question aujourd'hui. Les adolescents difficiles, donc dans le courant des années 2000, c'est un problème qui apparaît autour de cette description... Ouais, je vous le dis un petit peu. Merci. Autour de cette description d'une population interstitielle d'adolescents qui sont nimis. Ils sont ni cas sociaux, ils sont ni éducatifs, ni hospitalisés, et on ne sait pas trop où les mettre. Et donc cette population, elle est repérée par des cliniciens qui l'identifient, je dirais, avec trois ou quatre grands points importants. Le premier, c'est des adolescents qui sont caractérisés par leurs agirs. Donc les agir, c'est comme je le disais tout à l'heure, au sujet de la souffrance du jeune qui arrive aux urgences, c'est surtout des comportements de transgression des droits d'autrui ou des règles sociales, violence, fugue, détérioration de matériel, etc. C'est des adolescents qui se caractérisent par leur absence de pathologie psychiatrique reconnue. Et j'insiste aussi, je suis sensible, il faut être sensible au terme reconnu, parce que dans reconnu, il y a l'idée que c'est des jeunes qui n'ont pas de maladie psychiatrique. Mais il y a aussi l'idée que c'est des jeunes dont, enfin, je dirais, la gravité des problèmes qu'ils posent sont insuffisamment reconnus par les psychiatres et insuffisamment pris en considération par les psychiatres, en particulier par les psychiatres de l'hôpital. Donc avec cette question très centrale de l'articulation qui se joue concrètement dans le service d'urgence, mais entre la psychiatrie hospitalière, les services éducatifs, etc. Troisième point, c'est que c'est des adolescents qui sont souvent caractérisés par la carence, donc le fait d'avoir vécu très précocement dans leur enfance, et notamment dans la famille, mais parfois parce que c'est des enfants qui ont été institutionnalisés très tôt, des carences, des abandons, des discontinuités, un manque de repères affectifs, un manque d'attention, etc. Et puis le dernier point qui est particulièrement important dans cette définition, d'où tout ce que j'ai dit sur les guillemets, la difficile, etc., c'est que c'est des adolescents qui sont caractérisés par les réactions qui suscitent dans leur entourage, typiquement un hyper-investissement suivi de rejet. Donc c'est des adolescents, tout le monde veut les aider pendant plusieurs semaines, et puis après, au bout de 3 semaines, 1 mois, plus personne ne veut entendre parler d'eux, ils se font renvoyer, ça recommence pareil ailleurs. Et ça, cette séquence, elle est conçue comme étant le propre de l'adolescent, et comme étant même le fait, la réactualisation de son histoire infantile. C'est-à-dire qu'en gros, pour dire les choses de manière très simple et schématique, c'est des enfants qui ont vécu de l'abandon des discontinuités très tôt, et qui n'ont de cesse en fait de reproduire ça dans les relations qu'ils ont avec les adultes, en particulier avec les professionnels. Salut Benjamin.
Excusez-moi.
Vas-y.
Ça te marche pas que tu m'as déjà.
Ouais, je présentais un petit peu comment je suis arrivé à travailler sur les adolescents difficiles. Qu'est-ce que c'est que les adolescents difficiles? Après, si vous voulez en savoir plus sur les adolescents difficiles, il faut lire le livre, alors on en parlera tout à l'heure. Mais dans le livre, j'ai fait une enquête sur un exemple particulier de dispositif qui a été créé pour ce type, pour régler les problèmes que pose cette population. C'était un réseau interprofessionnel. En fait, il y a des réseaux qui se sont montés dans la plupart des régions de France. Moi, j'ai enquêté particulièrement dans un de ces réseaux et j'ai vraiment fait un travail du point de vue de l'anthropologie qui est ce qu'on appelle une monographie, c'est-à-dire l'idée de travailler de manière très précise et très approfondie sur un lieu, comme on pourrait faire quelque part, je ne sais pas, sur un village du Cantal ou une famille particulière ou un corps professionnel particulier, en essayant d'aller suffisamment loin dans la particularité pour monter en généralité. Ça, c'est le truc que j'ai fait. Donc bon, la lecture du livre, c'est pas comme un roman, hein. J'essaie de rendre ça un peu fluide, mais ça reste un truc quand même assez voilà, qui suit cette démarche un peu rigoureuse. Et puis j'ai également compléter, enfin, finalement il y a un aller-retour, même si dans le livre ça c'est organisé plutôt en deux parties, mais j'ai complété cette ethnographie par une mise en dimension en perspective historique, avec une reconstitution historique de comment on en est arrivé à pouvoir repérer ces adolescents problématiques de cette façon-là. Et l'approche que j'utilise dans le livre, c'est une approche qu'on pourrait dire issue de la philosophie pragmatiste, de la sociologie des problèmes publics, c'est-à-dire l'idée de repérer ce sujet des problèmes publics, je ne vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus, mais on en parlera si vous voulez, mais l'idée c'est de un peu avec un d'essayer de comprendre les problèmes qui se posent en société comme des productions de la vie sociale, en prenant un petit pas de côté avec des théories qui seraient trop du côté de l'étiquetage, de dire en gros les délinquants sont délinquants juste parce qu'on dit qu'ils sont délinquants, mais d'essayer de comprendre les choses comme des problèmes en entier. Hein, et que la délinquance, c'est à la fois la conduite d'un enfant ou d'un adolescent, mais c'est aussi la façon dont elle est repérée, qui la repère. Par la façon dont on la repère, on suggère déjà nécessairement, dans le cadrage qu'on fait, des façons de résoudre le problème, quels acteurs sont mobilisés pour résoudre le problème, etc. Donc c'est vraiment essayer de décrire, sans être en adoptant une posture qui est très centré sur le contexte historique, politique et culturel dans lequel un problème émerge, mais sans être trop non plus du côté de la, comment on pourrait dire, du constructivisme ou de la fiction, en disant tout ça c'est des trucs inventés, donc sous-entendu c'est faux, quoi. Enfin, voilà. Voilà, dans le livre, j'explore finalement les soubassements historiques et la généalogie de cette catégorie d'adolescents difficiles en essayant de la resituer dans une cinquantaine d'années d'évolution institutionnelle. Et les deux aspects de la recherche, c'est-à-dire le terrain ethnographique dans un réseau pour des sens difficiles et puis la recherche historique sur cette catégorie, les deux aspects re-questionnent ce qui se passe dans cette scène un peu, on va dire, initiale de la recherche aux urgences, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la psychiatrisation ? Qu'est-ce que c'est que, quand les infirmiers et les médecins disent qu'il ne faut pas psychiatriser, les accompagnants d'un adolescent cherchent à psychiatriser, c'est-à-dire cherchent à faire rentrer à l'hôpital psychiatrique d'un jeune. Qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça, la psychiatrisation ? Et donc, peut-être, je vous propose pour la deuxième partie de continuer sur cette question de la psychiatrisation, peut-être pour vous donner quelques éléments de réflexion un peu plus actuelle sur la question de la violence institutionnelle.
Est-ce que tu peux pas en dire un peu plus sur ton terrain de recherche, sur ce groupe de travail là, comment tu l'as croisé, comment tu as été intégré à. Enfin, moi tu
non, 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 ouais, ouais. Ouais, donc moi j'ai intégré un réseau pour adolescents en grande difficulté. Concrètement, c'est un réseau qui réunissait sous l'égide d'un conseil départemental, enfin on disait conseil général à l'époque, donc d'une instance politique de la politique locale. Du pouvoir public local, des communautés, réunissaient des spécialistes de l'adolescence de différents domaines, donc justice des mineurs, psychiatres, alors les psychiatres c'était exclusivement des psychiatres du monde hospitalier, qui travaillaient dans les services d'hospitalisation, précisément. Chef de service, responsable éducatif de structures qui font des mesures de protection de l'enfance. Et puis également quelques représentants plutôt du côté de la pédagogie spécialisée, donc inspection académique, responsable d'établissements médico-sociaux, etc. Donc il y avait un collectif de, entre guillemets, membres permanents, donc de gens qui venaient tous les mois pour se réunir. Et ces membres permanents recevaient des professionnels demandeurs qui venaient exposer la situation d'un adolescent difficile. Le cas était exposé pendant une vingtaine de minutes, et après il y avait une heure à peu près de discussion sur chaque cas où les professionnels du réseau donnaient leur analyse, proposaient des solutions. Et moi j'ai intégré ce réseau plutôt dans un processus, donc en tant que médecin hospitalier, et c'est un peu ce que j'écris dans le livre, mais plutôt dans un processus de délégation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'avait été refilé par la hiérarchie médicale qui avait reçu la proposition de participer à ce réseau. Voilà. Je sais pas si ça. Ça va pas.
Du coup, tu as participé régulièrement aux rencontres.
Voilà, je me suis rendu régulièrement à ces rencontres qui étaient des rencontres mensuelles. Dans un premier temps, sans forcément savoir que ça allait être un terrain de recherche, hein, parce que c'était, tout ça s'est fait un peu. Je suis rentré dans ce réseau, oui, à la fin de l'année 2008, début de l'année 2009. Et puis j'ai vraiment commencé à faire un travail d'enquête là-bas en 2010. Donc c'est un peu une enquête qui a commencé en quelque sorte comme une enquête à couvert, c'est-à-dire je ne me suis pas exposé auprès des gens de ce réseau en disant voilà, maintenant je fais un travail de recherche. Pour plein de raisons, mais d'une part parce que ça aurait été assez artificiel de commencer des choses comme ça, et puis après, et puis parce que c'était aussi, enfin quelque part, c'est aussi ce que j'essaie d'analyser dans le livre, mais que ce réseau procède lui-même d'une forme d'enquête en fait. Hein. Et donc concrètement, par exemple, ce que je faisais quand j'enquêtais dans ce réseau, c'est-à-dire que je prenais des notes pendant les séances, ce que tout le monde fait. Donc c'était mon activité en soi, concrètement, ne changeait pas tellement de ce qu'on fait quand on est psychiatre et qu'on va dans ce réseau. Et puis après, il y a une autre phase qui a été de prendre contact, et alors là, plus, du coup, plus explicitement comme anthropologue, enfin, comme étudiant d'anthropologie, pour solliciter des interviews, aller voir les gens sur leur lieu de travail. Voilà. Donc l'enquête ne porte pas sur la façon dont les gens travaillent, mais vraiment sur la façon dont ils problématisent les cas. Donc je suis pas allé voir précisément qu'est-ce qui se faisait dans ces services, etc. Mais je suis allé quand même voilà, essayer de décrire qui était socialement chacun de ces acteurs. Comment se positionner, comment ils s'agençaient les uns vis-à-vis des autres, etc. Peut-être ce sur quoi je voulais finir là, pour la dernière partie, c'était de vous parler d'une situation un peu actuelle et puis faire quelques petits ponts avec cette recherche. Est-ce que vous avez entendu parler de l'hôpital du Rouvray? L'hôpital psychiatrique du Rouvray, ça vous dit quelque chose? C'est donc c'est l'hôpital du Rouvray, c'est l'hôpital, c'est l'équivalent du Vinatier à Rouen. Donc c'est le grand hôpital de la ville psychiatrique de la ville de Rouen, un peu en banlieue. C'est un établissement hospitalier. Alors, je pense que quand je vais vous en parler, ça va vous dire quand même quelque chose. Un établissement hospitalier qui a, en l'espace d'un an et demi, a fait deux fois un peu la une des journaux, enfin, dont on a parlé médiatiquement. C'était quand même un truc qui a été assez médiatisé, parce que j'ai regardé là, les deux fois où on a parlé de cet hôpital, c'était en première page du Monde, hein, dans les petits trucs, mais quand même en première page du Monde. Donc la première fois, c'était en mars 2018. Dans cet hôpital, il y a des professionnels de l'hôpital qui se sont mis en grève, qui ont fait une grève de la faim pour défendre les conditions d'hospitalisation des malades, notamment pour demander des moyens supplémentaires, des moyens pour avoir des postes d'infirmiers et d'aides-soignants, et en dénonçant notamment la surpopulation de l'hôpital, pardon. Et puis, donc avec donc des professionnels qui étaient prêts à engager voilà, leur propre vie pour obtenir des moyens supplémentaires et défendre les conditions d'accueil de leurs malades. Et de manière quand même assez énigmatique quand on rapproche les deux événements, les deux occurrences médiatiques. En novembre dernier, l'hôpital a été pointé de manière assez sévère par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vous situez un peu ce que c'est, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Instance publique, autonome, qui est. Du coup, qui est. Qui fait partie des engagements que prennent les pays qui signent un certain nombre de conventions relatives aux droits individuels. Donc la France doit se doter, dans le cadre du respect des conventions internationales, d'une instance publique indépendante du pouvoir exécutif et législatif qui contrôle les lieux de privation de liberté. Donc le contrôleur général des lieux de privation de liberté fait régulièrement un tour de France, des établissements pénitentiaires, des hôpitaux psychiatriques, etc. Et donc en novembre, le contrôleur général a fait une visite à l'hôpital du Rouvray et a émis un rapport d'alerte pour. Donc c'est une des possibilités qu'a qu'ont les rapporteurs et qu'a le contrôleur, c'est d'alerter les pouvoirs publics et de demander des actions immédiates pour faire cesser des manquements graves aux droits individuels. Donc dans ce rapport, le contrôleur signalait des choses qui étaient déjà signalées par les soignants, comme la surpopulation de l'hôpital, d'autres qui étaient peut-être un peu moins, mais qui, on va dire, sont un peu dans le même registre, par exemple le fait que les malades sont enfermés dans des chambres d'isolement où ils ont juste un seau hygiénique et où il n'y a aucune condition, des conditions matérielles très indécentes. Et il soulignait d'autres choses qui étaient beaucoup plus fortement critiques envers les professionnels eux-mêmes. notamment le fait qu'on imposait systématiquement aux malades des privations de liberté, comme le fait de porter un pyjama, de ne pas avoir le droit de sortir, de ne pas avoir le droit de téléphoner, ce qui est, pour Isabelle qui connaît la psychiatrie, en fait un grand classique de l'hôpital psychiatrique encore aujourd'hui, mais ça faisait le... et qui, voilà, c'est probablement pas qu'à l'hôpital du Rouvray que cette critique est émise, qui critiquait, comme ça a été le cas à Bourg-en-Bresse il y a 4 ans à peu près, l'usage systématique de mesures de contrainte, notamment le fait d'enfermer les malades, de les attacher, usage assez systématique, banalisé, peu encadré, peu justifié, etc., sans suivi. Et qui citait aussi, et ça c'est un point important, il me semble, si on veut comprendre tout ça, qui citait le fait, et là c'était vraiment à charge contre les professionnels, et contre l'établissement, mais en partie contre les professionnels, qui citait le fait que les malades n'étaient pas informés de leur recours en cas de mesure de contrainte, soins sans consentement, enfin rien que le fait de rester à l'hôpital sans consentement, il y a des mesures de recours qui existent évidemment, mais aussi être enfermés, etc. Donc non seulement les malades n'étaient pas informés, mais ils avaient fait une série d'entretiens avec des professionnels, et les professionnels eux-mêmes ne connaissaient pas en fait les droits des malades et les recours. Donc c'était quand même assez alarmant et assez difficilement, enfin c'était assez imparable comme critique quoi. Enfin, mais du coup si on rapproche ces deux choses, c'est quand même, on a d'un côté des soignants qui sont prêts à sacrifier leur vie pour défendre les conditions d'accueil des malades, et d'un autre côté des soignants qui apparaissent comme des, comme on pourrait dire, des détenteurs abusifs d'un pouvoir de contrainte, quoi, hein, qui enferment les gens sans leur demander de, sans leur donner de compte, sans même savoir à quel recours ils ont. Alors, pourquoi je cite cet exemple de l'hôpital du Rouvray? Il me semble que ce à quoi nous amène le cas des adolescents difficiles, et cette petite... et je reviens aussi à cette petite scène de la violence institutionnelle aux urgences, dans lequel il y a à la fois la question de limiter l'exercice du pouvoir, ne pas psychiatriser, hein, donc c'était quand même ce qu'il y avait dans la préoccupation des infirmiers et des médecins qui ne voulaient pas hospitaliser un jeune, c'était ne pas utiliser abusivement le pouvoir de contrainte de l'hôpital. Il y a également la question de... donc là c'est se prévenir de l'accès de l'asile, au sens de l'asile qui enferme, etc. Mais il y avait aussi... dans cette scène un peu troublée, la question de l'asile accueil, quoi. Hein, et donc, comment l'hôpital est un lieu qui a vocation à accueillir les situations les plus difficiles, les situations en perte de banc, enfin, en perte de repères, etc. Ce à quoi j'arrive dans ma conclusion à l'issue de cette enquête dans mon livre, c'est de montrer comment, finalement, la psychiatrisation dans le cas des adolescents difficiles, c'est une psychiatrisation qui dissocie d'une certaine façon les savoirs et les pratiques. D'où aussi le malaise que je décrivais au départ entre pas abuser du pouvoir, mais en même temps avoir l'impression que le job n'est pas fait si on laisse repartir le jeune. Et autour des adolescents difficiles, ce que les cliniciens qui ont repéré ce problème ont fait, c'est qu'ils ont... avec leurs outils cliniques et notamment avec la question du contre-transfert, des effets de, comment on pourrait dire, de réactivation, de remise en scène de la problématique du jeune, de sa problématique infantile sur la scène institutionnelle, ces cliniciens ont donné des outils pour réfléchir à la façon de fonctionner les institutions, à leurs abus de pouvoir, etc. Donc en repérant le fait que les professionnels pouvaient être mis dans des attitudes contre-transférentielles, qui pouvaient être des attitudes violentes, de rejet, de violence en miroir du jeune, ou parfois de séduction sexuelle, enfin voilà, tout un tas de comportements des professionnels déviants, en les repérant à travers les problèmes que se posent les professionnels face aux jeunes, en mettant en dialectique et en lien ces deux aspects, les savoirs cliniques ont réussi à... donner des outils d'identification de la violence institutionnelle et de régulation de la violence institutionnelle, puisque ce que faisaient ces cliniciens, c'était pas simplement repérer un problème, mais c'était aussi donner une solution, en l'occurrence donner une solution du côté de la supervision, par exemple. Et le problème, c'est que pour plein de raisons, ce modèle de régulation de la violence institutionnelle est un peu tombé en panne au cours des 15 dernières années, a été sérieusement, en tout cas, sérieusement remis en question, avec la montée de valeurs dans les institutions telles que l'autonomie individuelle, hein, d'où aussi l'importance d'informer les malades sur leurs droits, parce que c'est les malades qui se gouvernent eux-mêmes et qui sont les garants quand même de leur propre liberté. Le rôle des pouvoirs publics à travers le contrôle général des professions de liberté, c'est de s'assurer que les gens peuvent se gouverner par eux-mêmes. Et puis le deuxième point, c'est aussi ce qu'on appelle dans les termes du management hospitalier contemporain, le virage ambulatoire. Le fait que finalement, on cherche de plus en plus à traiter les gens sans les mettre dans un lieu où ils résident. Et donc, il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire, mais on pourrait très certainement comprendre un peu mieux cette énigme de l'hôpital du Rouvray, qui est une énigme qu'on retrouve complètement aussi à l'hôpital du Vinatier, dans tout un tas d'autres institutions psychiatriques, mais aussi d'institutions de l'enfance actuellement, en comprenant, en essayant d'être attentif à combien le modèle clinique de régulation de la violence est en perte de vitesse et rencontre des limites depuis une quinzaine d'années autour de ces transformations.
Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est une belle présentation. C'est vrai qu'en tant que médecin généraliste, je trouve que le milieu de la psychiatrie, c'est toujours quand même un milieu qui est assez opaque, quoi, enfin, avec plein de codes, plein de... Je trouve que c'est vraiment un monde au sein de la médecine. C'est intéressant de lire ton livre pour ça, d'être un peu plongé dans cet univers-là. C'est vrai que c'est tout un monde qui est un peu finalement presque un peu à la marge de la médecine classique. En tout cas, qui est assez étranger, je trouve, à un praticien comme moi.
Est-ce que tu émets dans tes conclusions des hypothèses sur la perte de vitesse justement de la régulation de la violence, par exemple par la supervision, je sais pas, à une époque où on parle au contraire d'une montée de la violence?
Oui, tout à fait. Le cas, je parle un peu dans le livre et je pense que ce cas-là est quand même vachement intéressant, le cas de... Donc toi, tu connais bien ça. Ceux qui sont un peu plus jeunes, je pense, en ont plus forcément la mémoire. Enfin, souvent, les étudiants plus jeunes, etc., ils ont plus entendu parler de ça. Mais en 2005, il y a eu un assez gros débat en France autour d'un rapport publié par l'INSERM sur le trouble des conduites. Voilà. Entité biomédicale qui appréhende le trouble des conduites, c'est une pathologie des enfants et des adolescents qui est définie par le fait de répétitivement transgresser les règles sociales. Donc trouble des conduites sociales. C'est une entité biomédicale qui, en définissant ces conduites transgressives répétées comme une entité pathologique, sert surtout à des fins pronostiques, c'est-à-dire sert surtout à repérer précocement les enfants qui, dans leur développement, font des écarts importants avec les autres du point de vue des règles sociales et des droits d'autrui pour intervenir précocement sur ces enfants et éviter qu'ils rentrent dans des carrières délinquantes à l'adolescence.
Oui, dans ce rapport, juste une petite parenthèse, il était question des enfants de moins de 3 ans, la prévention qu'on pouvait faire chez les enfants de moins de 3 ans, mais qui pouvait aussi apparaître comme une prédiction à ce moment-là, une inscription dans un futur déjà marqué par les troubles du comportement.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc face à ce rapport, un collectif qui se constitue, pas zéro de conduite, 200 000 signatures en 3 mois, donc une mobilisation assez massive, organisée surtout par les professionnels de santé mentale, on pourrait dire, pédopsychiatres, un petit peu les pédiatres, quelques juristes, quelques sociologues, enfin c'est beaucoup du côté de la psy que ça se mobilise. Et donc c'est effectivement ce que dénonce le collectif, c'est pas zéro de conduite, c'est, comme tu l'as dit, à la fois une biomédicalisation excessive, notamment avec la question de la génétique, et donc du coup peut-être du déterminisme, de repérer à travers les pistes génétiques des enfants qui seraient prédestinés à entrer dans des carrières de conduite violente ou transgressive. Et puis la proximité trop importante à la fois, on pourrait dire temporelle et programmatique, c'est-à-dire c'était au même moment, mais c'était aussi un peu le même programme, avec un projet de loi, donc un des projets de loi qu'il y avait à l'époque sur la prévention des délinquances générales, pas que la délinquance des mineurs, qui incluait un volet sur la délinquance des mineurs et qui prévoyait, dans ce volet-là, de repérer dès l'âge de 3 ans les enfants avec des comportements perturbateurs pour les suivre de manière intensive. Ce qui fait partie des préconisations scientifiques des auteurs qui travaillent sur les troubles des conduites, de repérer très tôt les enfants avec des conduites agressives avant l'école maternelle, dès la crèche, pour les inscrire dans des dispositifs de traitement spécifiques. Quoi. Et donc, finalement, le rapport, on pourrait dire pas des routes de conduite, le collectif l'a emporté plutôt sur le rapport. Le rapport a été assez critiqué par l'INSERM lui-même dans la procédure, le projet de loi a été retiré, la partie du projet de loi qui correspondait au rapport, quand ça a été retiré. Donc pour en revenir à ta question, c'est vrai que c'est ce contexte quand même où... Et l'arrière-plan, c'est un arrière-plan du côté de pouvoir public et notamment en période électorale, qui, de gauche comme de droite, affirme l'idée que les enfants sont de plus en plus violents, de plus en plus tôt et de plus en plus récalcitrants à l'autorité. À l'époque, il y a Laurent Michieli, donc un sociologue qui est à Montpellier, si je me souviens bien, ou à Marseille, qui fait un travail assez conséquent de critique des statistiques policières et judiciaires qui sont utilisées pour montrer qu'il y a un gros effet d'enregistrement dans l'augmentation de la délinquance des mineurs. Et Laurent Michieli, comme la plupart des chercheurs dans le monde entier, sont d'accord pour dire que dans les pays occidentaux, en réalité, la délinquance des mineurs, comme le trouble des conduites, diminue. Et donc les crimes les plus graves sont de moins en moins fréquents, etc. Et après, ça c'est un peu un truc à la louche, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une société où la sécurité en réalité augmente de plus en plus, mais la peur et l'intolérance par rapport aux conduites, aux écarts, devient de plus en plus important. Norbert Elias, il avait déjà écrit des choses là-dessus au début du XXe siècle. C'est des transformations, enfin plutôt au milieu du XXe siècle, c'est des transformations quand même assez ancienne, assez repérée. Voilà. Alors, comment comprendre du coup que ces mécanismes d'attention et de régulation à la violence dysfonctionnent alors même qu'on est de plus en plus préoccupé par la violence? Ce qui est sûr, c'est que ce qu'avaient fait les cliniciens, c'était de... Et c'est pour ça que les guillemets aux adolescents difficiles sont intéressants, c'est-à-dire que c'est d'analyser en même temps la violence des institutions et la violence des jeunes. Et donc de suspendre entre les deux. Et c'est pour ça que finalement, pour la plupart des professionnels de santé mentale, le trouble des conduites ne pouvait pas faire sens. C'est-à-dire qu'un enfant violent en soi n'existe pas dans le regard des professionnels de santé mentale dans les années 2000 en France. En tout cas. Enfin, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais je pense qu'il y avait vraiment une idée comme ça que la violence des enfants est un langage. Quoi. Et certes, il y a des enfants, personne ne nie que les enfants ont des conduites parfois vraiment anormales, violentes, etc. Mais ça reste compris comme... quelque chose qui s'intègre dans un système familial, dans des conditions sociales, des conditions d'éducation, et que le travail des cliniciens consiste à aider à décrypter une forme de langage dans cette façon de se comporter de l'enfant. Et cette idée-là, c'est vraiment une idée qui, en 50 ans, a énormément pénétré les institutions. C'est arrivé après-guerre, ça s'est développé après-guerre, mais c'est une idée qui n'est plus du tout l'idée des cliniciens. Je dirais même, d'une certaine façon, c'est le terme que j'utilisais aussi dans le livre, mais c'est la grammaire avec laquelle les institutions réfléchissent sur la violence. Quoi. Hein, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à partir des années 2000, autour de ces deux évolutions? Si on prend ces deux évolutions, donc... les traitements entre guillemets ambulatoires sans résidence, donc où de plus en plus les enfants, dans le cas de l'enfance par exemple, mais c'est aussi vrai pour les adultes du côté de la santé mentale, ouais. De plus en plus il s'agit de pouvoir traiter les gens en les gardant chez eux. Hein. C'est une grande recommandation aussi de l'OMS, hein, vous savez, c'est vraiment les grandes recommandations, toutes les grandes instances politiques en matière de santé recommandent le traitement communautaire plutôt que le traitement institutionnel. Donc, ça c'est un grand mouvement. Voilà, qui date pas des années 2000, hein, c'est même avant ça. Mais... et puis le deuxième mouvement qui est celui de mettre l'autonomie du sujet au pinacle. Quoi. Et donc en l'espace de 50 ans, entre l'après-guerre et puis les années 2000, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'un modèle où il s'agit surtout de protéger des individus vulnérables et les faire rentrer dans la communauté, et la collectivité, et les socialiser à la République, entre guillemets, à un modèle où il s'agit surtout de donner à chacun les atouts, de pouvoir les outils pour pouvoir se gouverner par soi-même. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce modèle? Bon, bah, le modèle clinique du côté de l'autonomie, il n'est pas très adapté parce que, en gros, les cliniciens, ils ont quand même surtout, à la louche hein, comme ça, mais ils ont surtout été attentifs au déterminisme plutôt qu'aux capacités individuelles. Et donc comment l'histoire individuelle, l'histoire précoce, l'histoire infantile, familiale, conditionne l'évolution de l'enfant, conditionne la vie d'adulte, la structuration de la personnalité, etc. Et donc forcément, il y a un peu une disjonction entre l'idée que les gens sont assez déterminés par des choses qui se passent très précocement. Moi je me souviens, il y a un psychiatre par exemple qui intervient beaucoup dans le domaine de la délinquance des... Maurice Berger, qui intervient beaucoup dans le domaine de la délinquance des mineurs et de la protection de l'enfance, il dit « tout se joue avant 3 ans hein. ». Donc ce modèle-là, c'est vrai qu'il ne rend pas compte de la question des capacités, de comment les gens ont des capacités, et il s'agit de les aider à recouvrer empowerment, etc., à recouvrir leurs capacités. Et puis, à travers le virage ambulatoire, le groupe de professionnels se défait. C'est-à-dire que les adolescents, ils sont de moins en moins dans un seul endroit. Donc tout le travail de réfléchir à ce qui se passe avec les jeunes dans le quotidien, c'est de moins en moins possible, tout simplement, parce que les jeunes, ils sont le matin à l'ITEP, l'après-midi au collège, le soir dans une famille d'accueil, le week-end dans un foyer, et tout cela se morcelle concrètement, et les gens ne travaillent plus ensemble, n'ont plus de temps de réunion ensemble. Et donc tout ce travail qu'avaient amené les psychologues, en particulier, mais les cliniciens, psychiatres et psychologues dans les institutions qui s'occupaient d'enfants, il a plus vraiment de support, quoi. Et je sais pas si vous connaissez une BD qui s'appelle HP. C'est une auteure de BD qui s'appelle Lisa Mendel. Et en fait, Lisa Mendel, elle doit avoir à peu près mon âge, je pense qu'elle doit avoir une quarantaine d'années. Et ses deux parents étaient jeunes infirmiers dans les années 60. 60-70, donc au moment où les asiles ont été énormément transformés. Et dans HP, donc c'est deux bandes dessinées qu'elle a faites en s'appuyant sur les souvenirs et les récits de ses parents. Donc elle retrace les transformations de l'hôpital HP pour hôpital psychiatrique, elle retrace les transformations de l'hôpital psychiatrique à cette période. Hein, et il y a notamment plusieurs planches où on voit l'arrivée des psychologues et la création des groupes de supervision. Et où on voit, il y a une image comme ça où on voit les familles qui se réunissent et ils ont tous. Toutes les images de ce qui se passe à l'hôpital, qu'ils partagent ensemble, etc. Donc tout ça, ça ne marche plus, quoi. Et face à ça, c'est vrai que les cliniciens ont un peu... Enfin, en tout cas, une partie des cliniciens, notamment, on va dire, des psychanalystes lacaniens, pour dire ça comme ça très rapidement, mais ont une espèce de posture, on va dire, pour essayer de répondre à cette crise morale, c'est-à-dire que leur intervention est de moins en moins légitime, hein, de moins en moins de poids, de valeur morale, enfin va de moins en moins de soi. Ils adoptent une posture de dénonciation de la désinstitutionnalisation, en disant la désinstitutionnalisation, en fait, on est dans une société au cours des années 2000, il y a beaucoup de pensées comme ça portées par des lacaniens. Qui défend l'idée qu'on est dans une société du tout de suite, où il n'y a plus d'interdits, où il y a tout est immédiat, où les gens cherchent à se satisfaire immédiatement, et où il n'y a plus d'institutions avec un grand I au sens lacanien d'un interdit symbolique qui sépare en gros l'enfant, le petit enfant de sa maman avec le nom du père, quoi. Donc en faisant une espèce d'analogie entre des transformations sociales qu'ils analysent à leur façon et puis des concepts psychopathologiques, concepts psychanalytiques. Et donc, finalement, à partir de là, le système s'enraye aussi, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui a été mis à mal par la modernité, rejette la modernité, enfin rejette les transformations contemporaines. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est comme ça que se constitue une espèce d'engrenage autour de la mise en péril de la supervision, du modèle de la supervision.
Moi, c'est vrai qu'à la lecture du bouquin, il y a des choses qui m'ont ramené un peu à notre travail sur le... Avec Benjamin, on essaie de travailler sur la question de la politique de soins. Et j'ai bien aimé ce que tu appelles la symétrie entre les adolescents et les professionnels, où à un moment, finalement, donc dans ton livre, en fait, donc tu racontes toutes ces séances où à chaque fois, il y a l'histoire d'un enfant qui est un adolescent qui est amené, puis cette histoire... on sent qu'ils sont un peu sans solution, donc tout le monde est un peu on sent que tout le monde se gratte la tête et tu dis finalement que ce que c'est la vulnérabilité des adolescents va révéler aussi la vulnérabilité des professionnels et que moi ça m'a rappelé une soirée qu'on a fait avec Marie-Hélène Boucan, je ne sais pas si tu la connais, qui est philosophe. Marie-Hélène Boucan, c'est un médecin. C'est une médecin qui était chef de service en réadaptation et qui est tombée malade d'une maladie génétique rare. Du coup, elle n'a plus pu continuer à exercer. Enfin, je parle sous ton contrôle.
Oui, non, mais je ne la connais pas très bien.
Ah, pardon, d'accord. Ok, je voulais
que tu disais que tu avais non, non.
Et du coup, elle n'a plus pu exercer son métier. Et donc, elle a fait de la philosophie. Elle a passé un doctorat en philosophie. Et du coup, dans son... Elle écrit des bouquins et dans un de ses bouquins, elle parlait de la solidarité des ébranlés en disant que en fait, les gens qui avaient connu la maladie, qui avaient connu des épreuves dans leur vie, ben, peut-être que, pour revenir à la question politique, peut-être que ces gens-là avaient une capacité à s'organiser ensemble que d'autres qui n'ont pas vécu l'épreuve n'ont pas. Et, donc c'est ce qu'elle appelle la solidarité des ébranlés. Et j'ai cru un peu voir cette notion dans ton travail. Avec notamment cette question, à un moment tu parles de trous dans la prise en charge. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a une prise en charge globale un peu, et que bah, du coup, bah, tous ces jeunes-là, ils rentrent pas dans les cases, quoi. Et du coup, ces professionnels autour de la table, on a l'impression que ouais, ils perdent un référentiel. Tu parles de la perte d'un référentiel commun et que du coup, ils en arrivent à être dans des situations complètement d'indécision, en fait, à être un peu paralysés. Et du coup, de cette paralysie, tu parles de c'est une épreuve qui va favoriser les processus de construction, en fait, et de réinventer des choses. Et ben, je trouve ça assez intéressant, cette question, finalement, que ouais, y a une sorte un peu de mise à plat, quoi, et que cette paralysie, on parlait... moi, je suis en train de lire un livre sur Socrate... Et pour le coup, c'était un peu ce que défendait Socrate, d'arrêter les pensées automatiques, de faire comprendre aux gens, en fait, non, ils ne savent pas grand-chose, et que ce n'est pas pour emmener les gens vers une impasse du non-savoir, mais c'est pour emmener les gens vers une attitude de recherche, une mise en recherche, et que cette façon de constater, ben là, on ne sait plus ce qu'on... on sait plus, on comprend plus grand-chose, et en fait, tout ça est la base de... d'une mise en recherche et de trouver des solutions, peut-être d'une efficacité nouvelle et voilà. Enfin, je trouvais ça très, très intéressant.
Il y a, concernant la solidarité des ébranlés, la médiation père aussi, sur laquelle on a... Comment ça s'appelle le salmon là qui abordait un peu ça au sein de Santé Commune. Et dans la médiation père, il y a aussi, c'est généralement des médiateurs et des médiatrices en santé, mais qui ont généralement des caractéristiques qui ont aussi un passé en fait, un vécu sur des affections longue durée ou des maladies, souvent issues d'un parcours migratoire, etc. Mmh. Et c'est vrai que ça fait sens, ça fait écho avec la solidarité des ébranlés.
Par rapport à... Ouais, c'est vrai que sur les quelques pistes pour... Enfin, moi, je trouve ce que vous dites, ça m'amène aussi un peu à la réflexion que je me faisais récemment sur, finalement, c'est aussi un peu la conclusion du livre, c'est comment sous-peser ce modèle clinique. Hein, qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qui vaut au sens de... Quelle foi vaut-il? Qu'est-ce qu'il faut en garder? Qu'est-ce qui doit évoluer? Alors, bon, évidemment, le côté adolescent difficile, le problème que ça pose, c'est que tout le monde est un adolescent difficile. Donc, j'essaye de pas trop vendre mon bouquin à tort et à travers. De toute façon, voilà, c'est un bouquin de sciences sociales, hein, ça se vend pas non plus à des centaines de milliers d'exemplaires. Hein. J'étais en librairie le jour, ils m'ont dit, on en a vendu deux, c'est bien, quoi. Un livre de ce type. C'est bien, ils m'ont dit, c'est bien, deux.
Mais souvent, je prends la précaution, quand je fais des trucs un peu plus larges au niveau du public, de dire que c'est pas un livre sur les adolescents difficiles. Mmh. Et en réalité, du point de vue des sciences sociales, c'est comme la magie. C'est-à-dire que ça pourrait très bien exister ou ne pas exister. C'est pas vraiment... voilà, Jeanne Fabre-Sada, elle aurait pu faire de la magie sur le bocage sans se poser la question si ça existe vraiment ou pas. Même si, d'une certaine façon, on peut pas faire son livre si on pense qu'il n'existe pas non plus. Quoi. Enfin, mais c'est pas à ce niveau... C'est vraiment... Le saut, je dirais, conceptuel et heuristique que font les sciences sociales, en particulier l'anthropologie, c'est de se décaler de cette question de est-ce que la magie, ça existe ou pas, ou comment ça marche, et dire que si on dit que ça existe, c'est que ça existe. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu l'opération intellectuelle que je fais avec les adolescents difficiles. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont les avantages et les inconvénients de ce modèle, et notamment de la place donnée au contre-transfert ? Ce que tu dis sur la vulnérabilité, je trouve que c'est vraiment hyper central. Je pense que ce que offre ce modèle et ce qu'il faut absolument que les institutions arrivent à préserver, c'est la question de la délibération, la question de la prudence, du doute. Bertrand Ravon, avec qui je travaille pas mal, il a écrit là-dessus des trucs intéressants, plutôt du côté du travail social, mais sur la question de... situations comme ça et qui sont de plus en plus fréquentes avec les transformations aussi de l'action publique où pour dire choses comme ça, il ne s'agit pas juste de faire rentrer les gens dans le moule comme c'était le cas dans les années 60, où c'était aussi assez simple, il fallait leur trouver un emploi de salarié quoi, enfin les jeunes délinquants, il fallait qu'ils travaillent, soit apprentis qu'ils travaillent quoi, enfin je caricature à peine. On rentre dans des considérations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus personnalisées et où les zones d'incertitude se multiplient et que donc dans ces espaces-là, la seule façon de travailler, c'est de travailler de manière collégiale, en intégrant la question du doute, dans ce que Bertrand Ravon et d'autres sociologues plutôt du travail social appellent les pratiques prudentielles, pour justement mitiger, on pourrait dire, c'est un peu un anglicisme, mais enfin en tout cas, intégrer la question du doute. Et donc je pense que les institutions, en particulier que l'hôpital, puissent garder, et les hôpitaux psychiatriques comme les hôpitaux généraux, puissent garder des endroits où on parle en fait, pas des réunions techniques où on fait du management, etc., mais des endroits où on parle des problèmes qu'on rencontre avec les usagers, c'est hyper important. Ce qu'on pourrait dire, c'est que la critique classique par rapport à cette question de la vulnérabilité, que je reprends un petit peu, c'est de dire finalement, les professionnels ils disent, nous aussi on est des vulnérables, il y en a un par exemple qui dit, moi je m'occupe d'adolescents, le premier problème des adolescents difficiles c'est que c'est des décrochés scolaires, moi-même je suis un décroché scolaire, quoi. J'étais nul à l'école, je me suis fait virer, et c'est comme ça que, en gros, ma vocation pour m'occuper d'adolescents difficiles est née. Un des problèmes que pose cette, on va dire, psychologisation au sens descriptif, c'est-à-dire le fait de passer par les savoirs psychologiques pour appréhender cette proximité entre les usagers et les professionnels, c'est l'occultation du fait politique, quoi. C'est-à-dire le fait de ne pas arriver à occultation, en tout cas ne pas donner de forme au fait que ces adolescents, c'est tous quand même des jeunes garçons, souvent de quartiers défavorisés, stigmatisés, des quartiers de banlieue, comme on dit, souvent c'est des jeunes qui... ont des parents qui sont issus de l'immigration postcoloniale, Maghreb, Afrique subsaharienne, et que tout ça, finalement, c'est certainement pas en jeu dans la façon dont les professionnels le traitent, mais en même temps, c'est en jeu à un moment dans le fait que c'est eux qui se retrouvent exclus partout. Et ça, c'est vrai que c'est critique de l'occultation du politique, les cliniciens qui rentrent à l'asile, à l'éducation surveillée avec les délinquants, etc., dans les années 60, 70, ils rencontrent fortement, les cliniciens, les psychanalystes notamment, rencontrent fortement cette critique de la part d'acteurs d'institutions qui sont des gens très militants, marqués par le trotskisme, etc. Donc là, les cliniciens intègrent aussi beaucoup cette critique sur la psychologisation du social. Donc c'est une critique qui est aussi beaucoup intégrée par la clinique elle-même. Et puis le deuxième point qui, à mon sens, est plus contemporain et plus pertinent, c'est comme tu disais sur la question des médiateurs pairs, c'est-à-dire, on revient à la question capacitaire, c'est-à-dire l'idée de reconnaître qu'il y a des capacités. Moi, quand j'ai commencé mon internat au début des années 2000, il y avait quelques collectifs de schizophrènes qui se mettaient en place, et tout le monde me disait, mais c'est pas des schizophrènes, c'est des hystériques. Et en gros, ils sont pas vraiment malades, ils sont prendre pour des malades, ils cherchent des bénéfices. Et moi, j'ai été formé dans un modèle qui ne donnait pas l'idée que les schizophrènes pouvaient avoir les personnes souffrant de schizophrénie pouvaient avoir des capacités sociales, s'organiser, être une force politique, défendre des points de vue, etc. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment donc la question d'intégrer les usagers dans les instances délibératives, dans les instances décisionnelles, et que ces réunions, elles se fassent aussi avec des usagers, avec des gens qui ont l'expérience de la discrimination, l'expérience de la maladie, etc. C'est hyper important et ça pose aussi tout un tas d'autres problèmes, notamment la représentativité des usagers en matière de santé mentale. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce qui se passe autour de l'autisme. Donc l'autisme en France, il y a un mouvement de dépsychiatrisation de l'autisme depuis 15 ans, donc d'enlever l'autisme à la psychiatrie, et qui est un mouvement qui est porté par des très fortes associations très organisées, des associations très fortes et très organisées de parents d'enfants autistes, mais qui sont socialement assez peu représentatifs quand même. C'est-à-dire que c'est des gens de milieux très dominants socialement, classe sup, hyper aisés, souvent assez aisés matériellement, hyper aisés du point de vue du capital symbolique. Et c'est évident que là où il y a la représentativité des usagers, il y a les mêmes questions qui se posent ailleurs, c'est-à-dire comment il faut aussi identifier la question des inégalités sociales, etc. Mais en tout cas, moi je pense que maintenir quelque chose, la tradition autour du doute, de partager le doute et qu'il y ait de la place aussi pour de l'imprévu, etc. Et puis tout en intégrant les capacités des usagers, c'est vraiment je pense une façon de faire évoluer cette tradition clinique d'une manière qui, à mon avis, pourrait continuer à répondre aux besoins des institutions et des personnes qu'elles accueillent.
Ce que tu appelles la politique de l'attention, c'est ça en fait. Mmh. Si tu laisses la place au doute, c'est plus dans l'attention.
Dans la politique de l'attention, il y a l'idée qu'on est attentif aussi bien à la vulnérabilité des usagers qu'à celle des professionnels de ce point de vue-là. Ça se base vraiment sur l'idée qu'il n'y a pas des sachants et des objets de l'intervention. Enfin, et que ce qui réunit, c'est pas tellement l'engagement de ceux qui ont le savoir vis-à-vis de leurs bénéficiaires, mais c'est le fait que ceux qui ont le savoir, donc les professionnels, ils sont autant vulnérables que ceux qu'ils accueillent. Quoi. Mmh. Ouais. C'est vrai que c'est un peu autre chose encore que le modèle un peu biopsychosocial, quoi, qui est devenu un peu le truc dominant du côté des soins, où il y a l'idée du patient au centre du soin, mais en même temps, ça reste quand même dans l'idée que ça ne s'appuie pas en tout cas sur l'idée que celui qui soigne, il peut partager la vulnérabilité de celui qui est soigné, il me semble. Mmh. Là ça fait opérer de manière un peu différente. Quoi.
Tu peux revenir sur les deux points virages que tu appelais là. L'autonomisation, on va dire, souhaitée. Alors, l'autonomie, c'est vrai que c'est un terme aussi qui peut être employé par différentes écoles, différentes significations. Est-ce que tu peux reprendre un peu l'autonomisation souhaitée concrètement, par exemple, au institutionnel, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, qui va dans ce sens? Peut-être faire le lien avec le virage ambulatoire après.
Oui, tout à fait. Bon, l'autonomie, c'est un vaste sujet, quoi. Il y a quand même de nombreuses lectures des institutions publiques qui, dans le domaine de l'enfance, dans le domaine de la santé mentale ou pas, travail social, handicap, tout un tas d'autres aides sociales, indiquent que depuis la fin des années 80, il y a un accent de plus en plus important, il y a même un basculement de valeurs qui est mis du côté de l'autonomie. Peut-être qu'il faut avoir bien en tête aussi la différence entre valeurs et normes. C'est pas l'idée que tout le monde est autonome et que la norme, ça serait vraiment ce dans lequel il faut se tenir, sinon on est en écart. C'est l'idée de ce vers quoi il faut aller. Donc c'est la norme de l'institut, la valeur de l'intervention, c'est l'autonomie. Très concrètement, ça se décline par exemple. Ce qu'on peut dire, c'est que ces évolutions-là, elles sont. L'autonomie et puis le virage ambulatoire, c'est assez lié. C'est-à-dire que les gens, à la fois, se gouvernent par eux-mêmes et quand même se débrouillent ainsi pas aussi un peu par eux-mêmes chez eux ou avec leur famille, ça va un peu de pair. Quoi. Et le soubassement aussi, qui est critique de ce truc, c'est de dire tout ça, c'est entre guillemets néolibéral. Enfin, c'est un mot un peu galvaudé, mais c'est quand même l'idée que l'État va réduire sa sphère d'intervention au plus à la partie congrue, quoi. Et que tout le reste va être pris en charge dans une sphère autre, sphère familiale, sphère individuelle, etc. Et que du coup, en
en ayant des interventions qui visent les gens à développer le soin d'eux-mêmes, on a moins besoin de s'occuper d'eux. Que concrètement, évidemment, les cliniciens des années 60-70, qui étaient dans des vastes institutions, souvent assez réclusives, qui s'occupaient de mineurs, ben, ils étaient dans des institutions qui coûtent beaucoup plus cher que le fait d'avoir un éducateur qui fait une réunion avec 5 jeunes une fois par semaine, quoi. Donc il y a aussi des enjeux de coût dans le fait de ne pas héberger, dans le fait de faire des choses courtes, évaluer, etc. Donc de manière très concrète, la façon dont ça se... Et alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui va de pair avec l'autonomie, c'est la responsabilisation. Donc si finalement on est responsable, on a les capacités de s'occuper soi-même de sa propre vie, on doit aussi pouvoir en rendre des comptes. Et de ce point de vue-là, la délinquance des mineurs, c'est hyper illustratif. En 2018, moi j'ai eu la chance d'aller faire un séjour, là, un peu d'enquête au Canada pendant 3 mois, et je me souviens que j'étais dans un service d'expertise judiciaire pour les jeunes délinquants, et un des premiers jeunes que j'ai vu arriver, c'est un jeune qui s'est assis, tête comme ça, et puis le psychologue lui a demandé pourquoi vous êtes là ? Et il lui a dit « I made bad decisions », j'ai fait des mauvaises décisions. J'ai pris des mauvaises décisions. Alors c'était un délinquant multi-récidiviste, c'était pour ça que le juge avait demandé à ce qu'il soit évalué par des psychiatres et des psychologues. Je pense qu'un jeune, je ne pourrais pas exactement décrire tout à fait la même scène en France, mais je peux vous dire qu'un jeune qui a déjà beaucoup fréquenté la justice des mineurs en France, il ne vous dirait pas les choses comme ça. Il vous parlerait, ou il refuserait de vous parler, mais enfin le fond, ça serait quand même papa-maman, quoi. Et comment son histoire infantile, d'une certaine manière, l'a conditionné dans son parcours. C'est-à-dire que les institutions françaises ont quand même produit des discours aux chiches et leurs usagers qui sont de ce côté-là, là où les institutions nord-américaines et canadiennes en particulier, qui sont dans des modèles néolibéraux un peu plus ancrés déjà, qui ont commencé plus tôt, etc., produisent des discours plutôt sur le gouvernement de soi-même, quoi. Donc ce qui s'est passé en France concrètement au cours des années 2000, c'est dans les réformes de la justice des mineurs, ça a été des réformes par exemple où on visait à s'assurer que les mineurs pouvaient bien comprendre l'ordonnance de 45 qui gouverne la justice pénale des mineurs, parce que s'ils la comprenaient bien, bon, en dernier lieu, il n'y avait pas vraiment de raison qu'ils ne s'y soumettent pas, quoi, enfin, et qu'ils se soumettent pas aux règles sociales. Et ça, ce qui s'est mis en place aussi à cette période, c'est un espèce de jeu de loi pénale allant de plus vers des mesures d'enfermement, enfin de contraintes de plus en plus importantes, quoi. Avec la prise en charge en milieu ouvert, après les centres éducatifs renforcés, où on t'enlève de ta famille 3-4 mois, puis après t'es dans un foyer, puis après les centres éducatifs fermés, ou alors là t'es fermé, t'es dans un endroit plus ou moins fermé à clé, mais surtout si tu restes pas, on t'envoie en prison, puis après la prison, quoi. Puis après, ben, c'est comme des boîtes, tu retournes au début, quoi. Et alors que dans les années 70, à la fin des années 70, il y a une espèce d'âge d'or antidisciplinaire où ce qu'il y a, c'est pas un jeu de loi, mais enfin ce qu'il y a au pinacle, c'est le milieu ouvert, c'est le fait de soigner les gens, soigner la délinquance des mineurs chez eux, dans leur famille, et puis de temps en temps, il y a la prison pour certains d'entre eux qui, pour plein de raisons, ne rentrent pas dans le modèle, mais le modèle, c'est quand même la maison, quoi. Et donc ça illustre vraiment ce schéma de la responsabilisation, ça illustre vraiment l'appel de plus en plus important qui est fait à l'autonomie, le fait que ce que les institutions vont viser maintenant, c'est produire des individus autonomes et leur donner les capacités d'être autonomes. Voilà.
C'est vrai que moi qui passe un peu de temps sur... on va dire la pensée néolibérale, et c'est un peu détricoté, ça en voyageant un petit peu à travers les écrits, ça a été un de mes sujets de travail sur mon dernier mois. Et c'est vrai que ça saute en fait aux yeux quand on parle de l'autonomisation avec le virage ambulatoire. Donc, alors, j'ai un petit problème avec utiliser le terme autonomie, car malheureusement, dans une autre démarche dite de changement, l'autonomie aurait davantage la notion d'être à même de se poser ses propres lois à soi-même. Le groupe dans lequel on est, avec une démarche plus politique, donc davantage, on va dire, de répartition de pouvoir. En parlant l'autonomisation, là, je le vois plus comme une privatisation de l'individu, reclus dans sa sphère, en fait, un peu privée, et une responsabilisation, mais vis-à-vis, en fait, d'un cadre qu'il ne peut pas participer forcément aussi le cadre institutionnel
à transformer.
À transformer ou à y donner sa propre. Ouais, à prendre part. Ouais. Mmh. Et donc c'est vrai que. Ouais, l'autonomisation, là, je le vois plus comme l'empowerment, comme on veut, un peu, a l'air peut-être. Le maître de soi, l'entrepreneur de soi-même, quelqu'un qui est un peu, ça c'est au départ le néolibéral, mais pris, qui doit par et pour lui-même avoir les armes pour se débrouiller dans ce monde, en fait. Je sais pas si tu vois ce que. Voilà la distinction.
Ouais, c'est sûr que par rapport à ça, c'est le terme de néolibéral. Je l'utilise pas beaucoup déjà parce que je connais pas très très bien les pensées sur le néolibéralisme. Et puis je trouve que c'est un terme un peu piège, mais parce que il est à la fois on pourrait dire descriptif et dénonciateur, quoi. Enfin, ouais. Et ce qu'il faut
quasi exclusivement dénonciateur.
Dénonciateur. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que par exemple quelqu'un comme Michel Foucault est beaucoup plus proche du néolibéralisme que du marxisme. C'est-à-dire l'idée que les individus, enfin que la société, idéalement, c'est plutôt un ensemble d'atomes qui interagissent et qui sont régis par les lois d'interaction les uns avec les autres, plutôt que par un espèce de grand cadre qui s'impose à eux, qui structure avec une finalité, etc. Je pense que c'est beaucoup plus conforme à la non-pensée, en tout cas l'aspect, le refus de formaliser aussi et d'arrêter les choses, qu'on trouve chez Michel Foucault. Pour en venir à des choses plus concrètes du côté de l'être, donc là c'est du côté philosophique, moi je connais pas assez bien le néolibéralisme, je pourrais pas en parler de manière très, très instruite, mais très, très, très juste, mais du côté du terrain, je dirais anthropologique, institutionnel, en tant qu'acteur ou que chercheur, enfin, ce qui est sûr c'est qu'il y a quelque chose qui est hyper intéressant et qui est vraiment à creuser entre, une pensée critique et puis... sur qu'est-ce que c'est que la réforme institutionnelle, quoi. Et où il y a deux mouvements qui sont qui souvent utilisent les mêmes mots et qui souvent prennent des directions assez différentes de critique des institutions. Et le terme de néolibéral, je pense qu'il va pas mal dans ce sens-là. Moi je penserais par exemple le terme d'autonomie, plutôt, il va pas mal dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est un terme qui peut être utilisé à tort et à travers, en tout cas pour dire des choses très différentes, par des acteurs, des institutions qui sont des gens qui veulent des réformes et des transformations institutionnelles, mais souvent dans des dynamiques assez différentes. Et de ce point de vue-là, je vais vous donner le cas que je connais assez bien, mais qui est des infirmiers de l'hôpital psychiatrique. Il y a Frédéric Mougenot, là, qui est un sociologue lyonnais, qui a fait un livre assez intéressant sur des infirmiers à l'hôpital psychiatrique, mais je pense qu'on pourrait retrouver la même chose chez les éducateurs de MEX, par exemple. Enfin, où il y a à la fois un idéal d'empowerment au sens de donner des capacités, d'aider les usagers à obtenir des capacités par eux-mêmes, et à la fois une dénonciation, et à la fois, une association à juste titre de l'autonomie au pouvoir administratif et au management, quoi. En gros, il y a deux voix qui disent la même chose à l'hôpital, par exemple, mais qui le disent pour des raisons différentes. Il y a les voix des réformateurs par le bas, des infirmiers, etc., qui disent il faut libérer le malade, il faut donner plus de moyens pour que les malades aient leur propre autonomie, leur propre capacité de décision. Et puis, il y a les voix du management qui disent il faut donner l'autonomie, mais en réalité, pour que les gens sortent plus vite, un peu avec une modèle de l'appendicite, quoi. Avant, on restait 8 jours à l'hôpital quand on était opéré de l'appendicite, puis maintenant, des fois, même, on n'est pas du tout hospitalisé, on se gère son traitement soi-même, quoi. Enfin, donc, avec l'idée que, parce que l'autonomie, ça coûte moins cher, et que c'est ce qui...
Et donc, ça se manifeste structurellement sur l'hôpital, avec une voie qui est davantage sortir un peu d'une forme de management public, avec beaucoup de pouvoir dans les mains, par exemple, plus d'une personne en haut, et peut-être les infirmiers qui sont
dans le cadre de l'hôpital, ce qui manque, c'est la création de collectifs, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de collectifs, et je pense que, en tout cas dans la santé mentale, c'est ce que je défends, c'est que le collectif est créé par les cliniciens, et autour des espaces de supervision. Et que c'est dans ces collectifs-là aussi que pouvait se discuter ce genre de questions-là. Dans l'hôpital général, ces collectifs étaient quand même beaucoup moins présents. Les syndicats sont complètement en perte de vitesse. Pour plein de raisons aussi, on est dans des,
les hôpitaux, bon, c'est souvent c'est des professionnels féminins, donc qui aussi sont moins investis, sont plus investis dans les charges de famille, donc moins investis surtout dans les milieux un peu plus populaires, donc sont moins investis aussi, sont moins disponibles pour les choses publiques. Donc du coup, il y a tout un ensemble de raisons qui font que ces collectifs-là, par les professionnels de première ligne, il y a des préoccupations, mais qui n'arrivent pas à prendre forme. Et c'est là où je pense que peut-être même la tradition clinique pourrait amener quelque chose d'une mise en forme et en réalité d'une repolitisation de cette question d'autonomie dans le sens d'arriver à créer des collectifs. Par rapport à ça, il y a un livre qui est sorti en fin d'année dernière qui s'appelle La casse du siècle, c'est sur les réformes de l'hôpital public. Là, tu l'as
acheté. Je l'ai chez moi.
Ouais, donc c'est Pierru, Vincent et. Ils décrivent assez bien ça, quoi, sur le. Comment les réformes de l'hôpital, côté hôpital général, quoi, pas les psychiatriques, mais ont vraiment à la fois rencontrent beaucoup de réticences et de résistances, mais des réticences qui n'arrivent pas à se concrétiser en résistance, ouais. Et qui n'arrivent pas à se collectiviser. Et une des façons de faire aussi, je pense, ça serait de réinvestir la question du chiffre et des outils évaluatifs comme quelque chose qui est. Le propre des professionnels de première ligne, alors que maintenant les stats sont quand même vus beaucoup comme les élites managériales et le chiffre qu'on impose d'en haut, quoi. Alors que du point de vue aussi de l'empowerment, s'assurer que ce qu'on fait ça a des effets pour les gens, ça a du sens, quoi. Enfin, mesurer quel effet les interventions qu'on a. Quel service ça apporte aux gens, ça a du sens.
Oui, je crois aussi.
Un discours récemment de. C'était la responsable de la pétrie Saint-Pétrien à Paris.
La pitié salpêtrière,
ouais. Est-ce que tu l'avais entendu, non?
Non, je pense
pas. Un discours qui avait fait récemment. En disant qu'elle, par elle-même, je crois, avec le temps, elle avait même du mal à sortir, en fait, de cette idée-là sur les rotations par rapport aux chambres, par rapport au lit et tout ça, et qu'elle-même, t'es pris au fur et à mesure, t'es pris par ça, et c'est dur de reprendre un petit peu de la hauteur et de re-switcher un petit peu sur. C'est de la culture du résultat, revenir un peu sur la culture du moyen, peut-être hospitalier. C'était pendant la crise récente des hôpitaux. Ah, ça m'a un petit peu marqué.
C'est vrai que ça me rappelle un peu notre travail à Médecins du Monde avec le soin avec les personnes en situation de. Enfin, les personnes migrantes et. Je pensais à ça tout à l'heure au sujet de la vulnérabilité des intervenants. J'ai eu ce sentiment-là quand je travaillais à la PASSE à l'Hôtel-Dieu, là où on est face à des situations qui sont tellement techniquement compliquées, humainement compliquées, socialement compliquées, qu'on est en permanence à l'épreuve de la paralysie, en fait. Et on se met à souffrir vraiment, contaminé un peu à. La vulnérabilité, moi, je la voyais là, quoi, ce fait qu'à un moment, ben, on est en difficulté. Et je crois que, la PASSE, c'était encore plus technique qu'à Médecins du Monde, mais à Médecins du Monde, je pense les intervenants ressentent souvent ça, une sorte de complexité telle qu'il y a un sentiment d'impuissance totale. De toute façon, OK, il n'y a pas de logement, de toute façon, il n'y aura jamais de logement, il n'y aura jamais de papier. Jusqu'à quel point c'est possible que je sois en contact avec cette personne qui, à un moment, sa situation devient intolérable pour moi, en fait. Et du coup, en ramenant ça à ce que tu dis sur la. Enfin, c'est qu'en même temps, à Médecins du Monde, je pense qu'une des solutions à cette souffrance, ce serait de créer des espaces collectifs. Et en fait, cette question de la participation des usagers reste un serpent de mer sans jamais. On l'invoque tout le temps, mais il y a quand même très peu d'espace, lors des choses anecdotiques, où on va se dire cette personne qui me paralyse, peut-être que si on se mettait autour de la table avec elle et qu'on discutait qu'est-ce qu'on peut faire, et cette mise autour de la table avec la personne, elle n'a quasiment jamais lieu. Enfin, je sais pas ce que tu. Je te regarde parce que tu es passé à Médecins du Monde aussi, mais Enfin, je sais pas, ça m'évoque un peu ce que vous dites là, sur l'importance de repolitiser, de créer des collectifs, et j'ai l'impression de voir la même chose dans des structures comme Médecins du Monde, où en fait, certes, on est enfermé dans la difficulté, mais peut-être cette façon de... Il y aurait une porte de sortie par la repolitisation, mais qu'elle n'est pas pensée, elle n'est pas saisie, elle n'est pas mise en pratique. Après, il faudrait voir pourquoi on ne la saisit pas, mais... Ouais, on s'exposerait à d'autres dangers, probablement, mais...
Je vois, sur un petit espace comme le mien, entre guillemets, dans lequel je travaille, cette question-là, je vois toute aussi de la difficulté de mise en œuvre, même avec des tailles beaucoup plus grandes aussi. Je pense qu'il y a plein de dimensions qui pourraient être soulevées, je pense. La question de la taille, également, elle en fait partie. Hein. La taille de l'endroit, de son organisation interne, en termes de gouvernance, ça c'est peut-être plus pour le... Je trouve, et aussi la volonté vraiment propre des personnes qui sont dans l'association, et qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement. C'est vraiment du... Bon, il y a plusieurs pans, mais c'est vrai que... Cette question-là, elle pose problème, en termes de... Même avec beaucoup, beaucoup de volonté, et l'organisation de mise en place de ces espaces, et tout ça, c'est une très, très grande question. Ouais.
Parce que peut-être, du coup, tu peux dire un mot sur Santé Commune, parce que pour le coup, vous avez cette ambition-là de créer un espace, qu'on pourrait appeler politique, ou en tout cas d'impliquer les
usagers du centre, soit centre de santé en fait, un centre de santé associatif, avec une vocation qu'on appelle communautaire en fait, c'est vraiment de vouloir que les usagers du centre s'emparent du lieu en tant que tel, qu'ils puissent s'y sentir vraiment comme leur appartenir, et également puissent monter en termes des actions autour de la prévention, de la promotion santé, puissent eux-mêmes porter également, et jusqu'à au niveau de gouvernance qui à terme a pour volonté de créer un comité d'usagers en fait, qui intégrerait en fait le troisième pan, donc c'est encore au stade de chantier. Et on passe, nous, pour l'instant il y a eu un petit stand-by, mais on passe beaucoup par, je sais pas comment on peut le dire, par là il y avait la fête d'Hernan. Et on passe par des... on va organiser la fête d'Hernan et on va faire ça avec les agents. Donc il y a eu des référents, on a fait des petites réunions et après on s'est organisé comme ça. Donc la fête d'Hernan a été quasiment... du centre a été quasiment réalisée par les personnes qui vont consulter au centre, en fait. Qui s'en sont emparées, tu vois. Et là, ça nous a permis de refaire un point sur les prochains projets qu'on souhaiterait mettre en place. Et... voilà. C'est quelque chose qui prend du temps. Des fois, le champ est ouvert. Hein. C'est pas... Il n'y a rien de prédéfini, préétabli. On aura l'occasion d'en parler.
Et du coup, Yannis, toi qui t'es investi dans le projet, est-ce que du coup, de cette expérimentation-là, tu as l'impression d'expérimenter des choses qui pourraient trouver des réponses dans toutes les problèmes que tu viens de soulever là, ou... Bon, après, je sais pas si...
Ouais, c'est un peu tôt pour répondre à cette question. Moi, je suis rentré dans... Enfin, j'ai connu la sauce en juin, là.
Ouais, à peu près.
On est tout arrivé. Et... ouais, c'est un peu tôt, je pense, pour répondre à cette question.
Clairement.
J'ai juste une question de savoir à quel point, quand tu décris la scène du jeune qui finalement est passif, j'ai l'impression, il y a une sorte de passivité, quelque chose qui est complètement subi de son côté, voire même voilà, ce silence comme une forme de tétanie. Et à quel point est-ce qu'il est inclus finalement dans le processus de décision en ce qui concerne sa propre vie et la recherche de solutions pour lui-même, ou alors est-ce qu'il est toujours, il y a toujours quelque part un écart entre ceux qui prétendent savoir et lui, est-ce qu'il y a toujours cette passivité là
Par rapport à ça, l'adolescence c'est vachement intéressant parce que c'est un âge qui lui-même est problématique, parce que évidemment un très jeune enfant, personne ne se pose la question de lui demander son avis, surtout si c'est la sécurité qui est en jeu. Quoi. Si tu vois un enfant de 1 an et demi qui va mettre les doigts dans la prise électrique, tu vas pas lui dire, ben écoute, t'es grand, essaye si tu veux, quoi. Tu vois, tu l'arrêtes. Et l'adolescence, c'est, de ce point de vue-là, c'est un âge qui est nini, quoi. Enfin, ou qui est mi-enfant, mi-adulte, du point de vue, par exemple, de l'autonomie. C'est un âge qui problématise l'autonomie. Toute la question de où est-ce qu'on situe l'autonomie et la participation du jeune, ça, en fait, ça fait partie d'une évaluation. Quoi, que les professionnels, sans forcément exactement le dire comme ça, ils utilisent beaucoup le terme, par exemple, adhérer. Mais pour savoir si le jeune adhère, s'il peut adhérer ou pas, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une espèce d'évaluation. On peut repérer du coup les critères à partir duquel ils évaluent si un jeune peut contribuer ou pas à décider de ce qu'on fait pour lui. Quoi. Et de ce point de vue-là, les questions d'âge tiennent un rôle, mais pas tant que ça. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'ai trouvé dans ma recherche, quoi, les questions de genre tiennent un rôle assez important. On a plutôt tendance à penser qu'il faut laisser le choix aux filles et qu'elles doivent faire une expérience parce qu'elles sont plus à même de développer une subjectivité, de faire un travail sur elles, parce que ces critères avec lesquels on juge sont aussi des critères psychologiques. Alors que les garçons, il leur faut des limites fermes, il faut les arrêter. Pour eux, la sanction va être structurante. Voilà. Il y a aussi des aspects sociaux, quoi. C'est-à-dire que la façon dont le jeune va s'exprimer, la façon dont ses parents vont être là ou pas pour faire valoir leur point de vue, va tenir un rôle dans le fait qu'on juge qu'il peut adhérer ou qu'il faut prendre une mesure qui ne tienne pas forcément compte de son opinion, de celui de ses parents ou de celle de ses parents. Donc, de ce point de vue-là, l'adolescence est hyper intéressant parce que ça permet de décrire tout ça, quoi. De décrire comment se forme l'autonomie, et comment se forme le jugement sur l'autonomie.
Oui, parce que c'est vrai, il y a tout ça, l'adolescence, il y a à la fois cette revendication narcissique et puis cette demande de dépendance. Donc, c'est vrai que c'est toujours difficile à estimer.
Les jeunes, ils se privent pas de le faire rappeler aux professionnels, quoi. Enfin,
oui.
Ils sont souvent tout contre, quoi. Tout contre. Oui. Là, ils sont contre, mais dans le sens où ils s'appuient dessus. Donc, ça crée des leur conduite crée des problèmes aux professionnels. On peut pas juste leur demander qu'est-ce que tu veux, quoi. Ils vont dire. Noir si les gens disent blanc, blanc si les gens disent noir, et puis rien si les gens disent rien.
Parfois on est bien obligé de leur offrir quelque chose contre quoi ils peuvent être. C'est aussi nécessaire.
Je sais pas.
Ça fait quoi un peu
je
la soirée
pas.
De... Ça te fait écho un peu avec la soirée avec Jean-Baptiste Caveau, là, sur le...
Un peu, ah oui, ouais. Oui, je vois sous quel angle tu vois. Oui, un petit peu, mais c'est surtout de, comment dire, en fait, la sensation que j'ai en t'écoutant, mais comme je suis pas du tout du milieu, tu me dis si je suis complètement à côté de la plaque, c'est qu'il n'y a pas de prise de contact auprès, c'est-à-dire vraiment... La création d'un espace de reliance très privilégié avec le jeune avant de le mettre finalement dans cette situation où lui, du coup, il va adopter une attitude extrêmement passive. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, je ne sais plus si c'est Marshall qui dit ça, ou qui connect before correct. C'est-à-dire avant d'aller éduquer, relie-toi, quoi, connecte-toi. Et que s'il n'y a pas cette phase de connexion au préalable, le processus d'éducation n'a aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit. Et moi, c'est vraiment cette... Ma question, elle porte vraiment là-dessus, sur cet espace de reliance et de... voilà.
Ouais. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est dans le cas d'adolescents difficiles, c'est... Je suis bien ce que tu dis du point de vue théorique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec l'adolescence difficile, c'est comment ces principes comme ceux de l'autonomie, etc., sont mis en mal par des populations qui ne rentrent pas facilement dans le modèle de l'autonomie. C'est-à-dire quand on est un adolescent, un peu comme un enfant, c'est pour ça que j'utilise l'image de l'enfant, elle est souvent mobilisée par les cliniciens, l'image de l'enfant qui met le doigt dans la prise. Donc c'est un vrai clinicien qui en parle la première fois, c'est pour ça que j'utilise. C'est un âge qui, en soi, fait que l'autonomie, ça ne va pas de soi. Benoît Hérault, peut-être qu'il en parlera quand il viendra la prochaine fois, mais il a travaillé par exemple sur les gens qui sont sous des mesures de protection des majeurs, comme dit, qui sont sous tutelle ou curatelle, qui ne peuvent pas gérer leurs papiers ou leurs biens par eux-mêmes. Comment on s'accommode, qu'est-ce qu'on fait avec les populations qui, quoi qu'on en dise, pour tout un tas de raisons, qu'elles soient plus ou moins essentielles à elles-mêmes ou construites dans des interactions sociales externes, ne rentrent pas dans le modèle de l'autonomie. Par exemple, je vais donner un exemple. Bon, les adolescents, quand ils arrivent aux urgences et qu'ils sont tout cassés, ils sont allés super loin quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où on va se dire bon, est-ce qu'on va pouvoir réfléchir ? Les éducateurs, ils les amènent, mais souvent, ils sont arrivés avec la police, mais moi, je cherche un patient dont je m'étais occupé à l'hôpital, j'ai entendu parler de lui il n'y a pas longtemps. Il a 12 ans, il y a 30 policiers qui sont venus chez lui l'autre jour, tellement il cassait le chez lui. Quand on le voit comme ça, on a du mal à croire, mais c'est une situation vraiment où le comportement est extrême. Quoi. Et puis, y a aussi, dans le parcours de ces jeunes, donc là, il y a quelque chose qui est vraiment du côté de leur conduite à eux, qui fait que c'est quand même difficile à un moment pour des entrées très concrètes, quoi, de se connect before.
Correct.
Quoi. Et puis. Il y a des jeunes aussi, par exemple, qui arrivent déjà au cours, à l'issue de parcours institutionnels très complexes, par exemple, des jeunes qui sont placés, qui sont retirés à leur famille, des fois depuis longtemps, avec des parents qui manifestement ne peuvent pas s'occuper d'eux, qui ont des troubles mentaux très sévères, une grande pauvreté, problèmes d'alcool, de drogue, etc. Et puis c'est comme ça depuis des années, et puis ils sont restés 4-5 ans dans un foyer ou une famille d'accueil quand ils étaient petits, et puis en grandissant, ils ont même des troubles, en tout cas des problèmes de comportement, ils se font virer une fois, deux fois, trois fois, et puis après c'est la boule de neige. Et après, t'as un travailleur social qui cherche à les mettre quelque part, et t'as des foyers qui disent « oui, mais il faut qu'on nous envoie une lettre pour dire qu'il est d'accord », mais le jeune, il n'est pas d'accord, sauf qu'il a 14 ans et il ne peut pas vivre ailleurs que dans un foyer, mais il n'a pas envie d'être dans un foyer. Lui, ce qu'il a envie, c'est qu'on arrête de l'emmerder, quoi. Et du coup, là aussi, on rencontre une contradiction de la question de l'autonomie, c'est-à-dire comment on peut demander à quelqu'un d'être d'accord d'être dans un foyer. Donc c'est la condition que posent les foyers ou les familles d'accueil parfois pour recevoir les jeunes, alors que eux, les jeunes, n'ont pas choisi d'être placés, quoi. S'ils avaient le choix, je sais pas, ils seraient au roi du pétrole à Dubaï avec un 4x4, quoi. Mais c'est pas possible, en fait. Donc,
Dis-moi ce que tu as l'expression que tu as dit.
Connect before correct.
Et c'est
Marshall Rosenberg,
le créateur de la communication non violente.
D'accord.
C'est ça, qui lui a vraiment travaillé justement à désamorcer énormément de situations. Je crois qu'il était psychologue à la base, mais dans des conditions absolument extrêmes. Il a travaillé dans des prisons, dans des tribus africaines où les gens se massacraient depuis des générations. Enfin voilà, et son processus a quand même été assez extraordinaire pour rétablir une connexion en fait entre des gens à travers des procédés d'empathie, de détection, des besoins. Lui, il a une phrase qui sous-tend un peu son processus, c'est de dire que... Alors tu me dis, je m'en souviens mal, mais il me semble que c'est toute violence commise est la stratégie tragique, non, l'expression tragique d'un besoin non nourri. Donc en fait, lui, il remontait vraiment à la source de ce qui n'était pas nourri dans l'être. Voilà, avec son processus, une fois qu'il y avait cette profonde connexion aux besoins et puis, beaucoup d'empathie aussi donnée, etc. Voilà, il arrivait à désamorcer des situations. Enfin, son processus est beaucoup plus complexe que ça, je le résume très très grossièrement. Mais voilà, du coup, c'est lui qui a dit ça, je crois.
Ah, c'est vrai que par rapport à ça, je connais pas si bien l'histoire de la communication en violence. C'est quelle époque un peu, c'est après-guerre, non?
C'est assez récent.
Ouais, je pourrais pas dire exactement.
Marshall, il est mort il y a peut-être 3 ans, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était il y a 20 ans, peut-être 20, 30 ans, tu vois.
À peine plus.
Ouais.
Mais en tout cas, sur la question des adolescents, il y a tout un mouvement comme ça. De resituer la violence comme resituer la violence dans les racines aussi de la négligence, quoi, et de quelque chose qui manque, à travers plutôt les pédagogues très marqués par la psychanalyse entre deux guerres dans l'Europe centrale, Janusz Korczak, Aaron Eckhorn, donc que je parle dans mon site dans le livre, défendre l'idée que, et on revient beaucoup à l'idée du langage, quoi, c'est-à-dire que l'idée que dans la conduite il y a quelque chose du langage qui ne peut pas s'exprimer, et qui est aussi une transformation assez importante à partir des années 60 autour de Lacan en France, avec l'idée que qui a pas mal influencé Michel Foucault dans sa lecture lui-même critique de la médecine. Et il y a si ça vous intéresse, il y a un historien qui s'appelle Steve Demazieux, qui travaille beaucoup sur la psychiatrie, qui a sorti un livre là assez récemment pour relire Foucault à travers notamment la coïncidence temporelle avec le séminaire de Lacan et tous les écrits qu'il a fait sur les figures du détective, avec l'idée, donc notamment dans la nouvelle d'Alan Garpeau sur la lettre, donc une lettre qui a été perdue et donc dont Lacan se saisit pour faire un truc qui était assez connu à l'époque.
La lettre de vie, oui.
Voilà. Avec l'idée que finalement, dans le symptôme, il y a une forme de grammaire à décortiquer, quoi. Et c'est une idée aussi qu'on trouve dans la naissance de la clinique. Et il critique un peu cette idée pour essayer de la resituer comme quelque chose qui a un côté un petit peu. Peut-être qui ne s'adapte pas forcément, qui n'est pas si vrai que ça pour la médecine du 19e siècle, mais qui parle certainement de ce qui se passe après-guerre, sur l'idée que la conduite, dans la conduite, il y a une forme de langage, quoi. Donc ça, je pense que ça appartient probablement un peu à cette tradition.
Ok. Est-ce qu'on fait un petit tour On a l'habitude de faire un petit tour de table pour que chacun nous donne un petit mot de la fin, mais ça peut être juste merci.
Merci Yannick, ça a plaisir de t'entendre. Je m'en vais un peu d'être arrivé tard. Je ne pouvais pas faire autrement, donc je reprendrai la première demi-heure tranquillement sur le site, sur le podcast. Et je n'ai pas lu ton livre, donc je vais m'empresser de le faire.
Tu ne seras pas obligé, hein.
Là, j'en avais déjà entendu parler, et là, ça me réouvre un petit peu. Je pense que je vais être à même deux fois le découvrir. Merci.
Moi, merci aussi. Hein. Moi, j'ai pris plaisir à lire ton livre. Notamment, après, sur la fin, ça, je trouve ça. Enfin, peut-être que je te prêterai sur les derniers chapitres. Vous êtes pas mal écho à notre travail, ouais, sur la politique de soins et tout ça. Et j'ai bien aimé tu prends l'image de l'effet tamis à un moment. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tous ces résidus ou ces situations inclassables. Je te remercie, c'était bien intéressant. Yeah.
Bah, merci aussi pour ton intervention. C'est intéressant de voir comment l'institution se décortique elle-même finalement, dans ses mises en doute et voilà les différents points de vue et voilà comment est-ce que tout ça crée des dynamiques finalement contradictoires et voilà comment est-ce qu'elle réfléchit sur elle-même, ça c'était intéressant de ce point de vue-là pour moi.
Pour ma part, merci aussi. C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à voir l'adolescence abordée par ce biais-là, par le biais de la relation avec les institutions. Donc c'était très intéressant. Mmh. uniquement.
Je risque de répéter ce que j'ai été dit. Merci. Moi, j'ai été très intéressée par l'évolution temporelle des idées, de l'évolution des institutions, bien sûr, on vient de le dire, et puis de la législation, tout ça au regard de l'évolution sociale. Enfin, du coup, j'ai très envie de lire le livre, évidemment, puisque je ne l'ai pas encore lu.
Bon, merci aussi, pour ma part. Et je suis sûre que c'est de toute permanence de réflexion pour le monde. Et...
Pour ceux qui veulent acheter le livre, il est en présentation, il est en librairie à la Virevolte, dans quelques temps, et on fait un petit événement en mai avec Mathieu Palin, qui est un journaliste, un ancien journaliste de Libération, dont le père était éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, qui a écrit une fiction, mais à partir d'un truc assez documenté d'enquête journalistique et de souvenirs de son père sur le parcours d'un jeune délinquant qui a lui-même été placé quand il était enfant. Et, donc on va faire un petit échange de regards sur...
Quel moment
tu... À la Virevolte,
grossièrement, au printemps, quoi.
Ouais, au printemps.
Voilà.
C'est vrai, merci, merci en tout cas de m'avoir invité. Et puis c'est ce qui est chouette avec un livre, c'est que c'est public, quoi, donc on peut en discuter. Ouais. C'est chouette d'avoir des rencontres comme ça. Merci à vous.